Je vous ai parlé d'une série de prédications nous encourageant à revenir au... Il y en a deux qui ont suivi, les autres fois, c'est bien. Aux fondamentaux. C'est une expression qu'on utilise en sport et notamment au rugby. On ne va pas l'utiliser dans l'église. Nous, on va utiliser l'expression revenir au fondement. Revenir au fondement. Vous êtes d'accord ? Amen. C'est une étude récente que j'ai faite du livre de Néhémie qui a commencé à poser ses choses sur mon cœur et au mois de mai-juin, alors que je priais pour la rentrée, le Seigneur m'a vraiment conduit à revenir sur ces choses que j'ai vues dans le livre de Néhémie. Notamment, on verra d'autres choses aussi. Et cette nécessité de revenir au fondement. La Bible nous parle d'histoires qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament il y a des milliers d'années. Et pourtant, elle nous interpelle encore aujourd'hui. Vous avez remarqué ça ? Les histoires qui datent d'il y a des milliers d'années, elles nous interpellent encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'homme, malheureusement, c'est Dieu qui est toujours le même et qui ne change pas. L'homme peut changer. Amen. Mais malheureusement, on voit que les problématiques de l'être humain sont toujours les mêmes, quelle que soit la société dans laquelle il vit. Le titre de cette série, donc, c'est le suivant, « Revenir au fondement ». On va lire un premier texte dans Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 25. Donc, ce sont des paroles que Jésus a prononcées. Et il dit ceci, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, c'est-à-dire les paroles que Jésus a prononcées, que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. » Vous connaissez ce texte des Écritures, hein ? Et il est parlé de fondement ici. Oui ou non ? Fondée sur le roc, la maison est fondée sur le roc. On parle de fondement et de fondement solide. Des fondements solides pour ma vie, fondements solides pour ma famille, fondements solides pour l'Église. Quel est le fondement préconisé par Jésus ? C'est quoi le fondement ? Oh là là, oh là là, oh là là. Le texte et rien que le texte. C'est quoi le fondement ? Oui, c'est la parole. C'est la parole. Le roc, vous allez me dire, oui, c'est Jésus, parce que Jésus, c'est le roc. Mais Jésus, c'est la parole, oui ou non ? Et il dit, celui qui met mes paroles en pratique fonde sur le roc. OK ? Parce que certains pensent, ah, je prie Jésus, ah, je connais Jésus, ah, j'aime Jésus. Donc, c'est sur le roc. Non, c'est sur sa parole. Et l'obéissance à sa parole. D'accord ? Le fondement, clairement, c'est sa parole. Aujourd'hui, tellement de voix s'élèvent pour dire comment doit vivre un chrétien, l'Église, et on a toutes sortes de nouvelles choses qui se mettent en place. Mais est-ce que ces personnes qui sont à l'origine de ça, elles s'appuient sur la parole et uniquement sur la parole ? C'est une question importante. Dieu n'a pas de problème avec les moyens. Chacun utilise les moyens qu'il veut. On est pour, on est contre. Enfin, chacun fait comme il se sent bien avec des moyens à utiliser pour communiquer la parole. Mais si le moyen devient le but... Si le moyen devient indispensable, alors il y a un problème, parce que la parole ne parle pas des moyens. La parole parle du fondement. Et le fondement, c'est la parole, c'est ce que Dieu dit. Amen. Il y a certains prédicateurs qui vont vous expliquer que des choses sont importantes en se servant de la parole, Mais en fait, vous remarquerez que dans leur discours, ils ont d'abord émis une théorie et ensuite ils sont allés faire dire à la parole des choses pour que leur théorie devienne valable bibliquement. Or ça, c'est un piège. On l'enseigne aux prédicateurs. C'est un piège. La parole n'est pas à notre service. Nous sommes au service de la parole. Et je dois communiquer ce que la parole m'a inspiré et non pas aller chercher appui sur la parole pour défendre mes propres opinions. Ça, c'est difficile, hein. On se fait piéger avec ça, hein. Parfois même, on peut dire des choses terribles, hein, en se servant par la parole parce qu'on veut faire passer son idée, hein. La parole n'est pas à notre service. Nous sommes au service de la parole. Écoutons les prédicateurs qui se laissent interpeller par la parole, sans avoir d'idées préconçues au départ. On veut que le Seigneur nous parle. Même s'il doit bouleverser nos idées, justement, préconçues, on veut lui dire, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Dans ces temps de la fin où règne une certaine confusion au sein des églises, il est important de revenir à la parole. La parole ne change pas. La parole ne change pas. Quelles que soient les époques, la parole ne change pas. On ne peut pas déplacer les fondements. Ok ? On peut évoluer sur nos manières de faire, mais on ne peut pas déplacer les fondements. C'est très important. La vision de notre Église s'appuie sur la parole. Ésaïe 54, notamment le verset 2, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages. » Donc c'est vraiment, on est poussé à un esprit d'ouverture. Et certains se servent de ces textes pour dire « Mais on est ouvert !» On est moderne, on doit être en phase avec notre société, oui. Mais n'oublions pas le conseil qui termine cette phrase. Affermis tes pieux. Si on élargit une tente et qu'on laisse les mêmes sardines, vous savez ce qui va se passer, hein ? S'il y a plus de toile, il va falloir soit enfoncer beaucoup plus, ou soit changer de sardine. Il va falloir mettre des choses plus costauds. On est d'accord ? Ou en rajouter. Et c'est important. Et souvent, on oublie ça. On est pour l'ouverture. Et sur Colomé, on est pour l'ouverture. On veut s'ouvrir au monde. On veut pas. On l'a déjà dit plusieurs fois, on n'est pas une église bocale. On est une église locale qui s'implique là où elle est. On est à fond dans tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais on ne veut pas oublier d'affermir les pieux. On revient au fondement. Sur quoi ? Sur quoi on tient ? Sur quoi on tient ? On va dans un premier temps parcourir le livre de Néhémie, alors en plusieurs fois, hein, vous inquiétez pas, on va pas faire tout le livre de Néhémie ce matin. Et on va s'inspirer d'abord de ce que le peuple d'Israël a pu connaître à cette époque-là. On aurait pu prendre d'autres moments de l'époque du peuple d'Israël, de l'histoire du peuple d'Israël. Et puis après, on ira dans le Nouveau Testament, pour voir aussi sur quel fondement l'Église a commencé. Des choses que vous connaissez, mais qu'il est bon de rappeler. À la lecture du premier chapitre et du début du deuxième chapitre de Néhémie, on peut faire ressortir trois points, c'est ce qu'on va faire ce matin. Le premier point, c'est ne pas être dans le déni. Le deuxième point, c'est prier, car tout commence par la prière. Et le troisième point, c'est se mettre à l'œuvre au temps voulu par Dieu. Amen ? Ça vous intéresse comme programme ? Premier point, ne pas être dans le déni. Néhémie va ouvrir les yeux, et le fait qu'il ait ouvert les yeux va permettre à d'autres d'ouvrir les yeux aussi. Pourquoi ? Parce que Néhémie va accepter de ne pas se mentir sur l'état des lieux, sur la situation. En fait, c'est extraordinaire de voir comment on peut, à des moments, alors que tout va mal, croire que tout va bien. Ça, c'est une des particularités de l'être humain, qui se persuade que tout va bien, alors que tout va mal. Et nous voyons souvent des gens qui nous disent « mais tout va bien ». leur vie spirituelle est un peu ou beaucoup en problématique, mais ils nous disent tout va bien. Tout va bien. Parfois, ça peut être l'orgueil. Moi, j'ai pas de problème, moi. Moi, je suis un bon chrétien. Ici, Néhémie apprend, vous connaissez le début du livre, et il va apprendre, parce que le roi avait fini, vous savez que le peuple, Néhémie est en exil, hein, à Babylone, et le peuple a été déporté, et les souverains de ces pays avaient pris l'habitude, après, au bout d'un moment, d'accorder des droits de retour, c'est-à-dire que les exilés pouvaient retourner quelque temps à Jérusalem et revenir. Et là, en fait, il y a un groupe qui revient, avec notamment Hanani, qui reviennent, et Néhémie s'empresse de les voir pour leur dire « Alors, qu'est-ce que vous avez vu à Jérusalem ?» Et on lit ce qu'ils répondent dans Néhémie chapitre 1, et on va lire les versets 2 et jusqu'au début du verset 4. « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. » On reviendra sur la fin, mais on va s'attarder d'abord sur le constat. Deux constats. D'abord, le malheur et l'opprobre. Et puis, deuxième constat, les murailles de Jérusalem, elles en ont pris un coup. Ce qui protégeait, qui fortifiait cette ville, qui est la ville de Dieu, hein, justement en opposition à la ville de Babylone, qui est celle du diable. Cette ville, la version parole de vie dit « Les murailles ont des brèches et des trous. » C'est le constat. Et quand j'ai étudié le livre de Néhémie, j'ai pensé premièrement « Bah oui, notre pays, c'est la cata. Hein. Les murailles sont en ruine, etc. » Mais en fait, le Seigneur m'a montré qu'il ne s'agit pas du pays, il s'agit de l'Église. Il s'agit de l'Église. Dans le livre de Néhémie, il n'est pas parlé des peuples païens. Il est parlé du peuple de Dieu, de ce qui est arrivé au peuple de Dieu. Je crois que nous devons nous poser la question, dans quel état sont nos murailles? Est-ce qu'il n'y a pas des brèches? Est-ce que le diable n'a pas fait des ouvertures? Et là, je parle d'abord à titre individuel, parce qu'on peut toujours parler de l'Église, hein. Mais l'Église, c'est moi. C'est moi, Luc, d'abord, qui suis interpellé par ce message. Puis la deuxième chose que Néhémie va faire, c'est que non seulement il ne se ment pas sur l'état des lieux, mais il ne se ment pas sur le pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là? Et je reprends sa prière dans Néhémie, chapitre 1, versets 6 à 7, où il s'adresse à Dieu, il dit « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. » Donc Néhémie parle à Dieu là. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Voilà, c'est pour les serviteurs, c'est pas pour les païens. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Le constat, c'est qu'Israël a bâti sur le sable. Israël a bâti sur le sable. Parce que s'il avait bâti sur la parole que Moïse a transmise, il ne serait pas arrivé là. Le fondement a été perdu. Et quand le fondement est perdu, eh bien c'est l'opprobre, le malheur. Ce sont les murailles qui se fissurent. Est-ce que l'Église n'a pas bâti sur le sable? Est-ce que chacun de nous, nous n'oublions pas les paroles du Seigneur. Nous sommes interpellés, et moi le premier, je peux en témoigner malheureusement, d'avoir été interpellé fortement par des prédications. Et j'entends plusieurs d'entre vous qui disent « Oh, ce message m'a interpellé !» Mais il n'y a pas de suite derrière. Il n'y a pas de suite. On oublie. On est capable d'oublier les choses que le Seigneur nous a dit vraiment, personnellement. Il nous a mis en garde. J'ai une habitude, c'est de noter, de prendre des notes sur mes méditations. Et des fois, je reviens dessus, puis je vois que je m'étais noté, tu dois faire ça, il y a quelques années au vent, et en fait, j'ai rien fait du tout. Parce qu'on est pris par nos activités, par le temps, par tout. Et moi, je veux m'humilier pour ça devant Dieu. On peut voir les côtés positifs, et vous savez, là aussi, il y a un nouveau courant qui encourage les prédicateurs à dire du positif. Hein. J'aimerais, et moi je ne choisis pas ce que je vous dis, je me tiens devant Dieu et j'essaye de dire ce qu'il me demande de vous dire. Je pense que dans le monde occidental, l'Église a besoin de revenir sur les fondements. Et vous savez, le diable, il nous amuse, parce que peut-être vous pensez aux églises où maintenant il y a des spots, des fumigènes et tout ça. Mais moi, ce n'est pas ça que je pense. Ce n'est pas ça que je pense. Je pense à toutes les églises. Et le mode de vie qu'ont les chrétiens occidentaux aujourd'hui, où il y a des brèches de partout, et on se laisse happer par ce siècle. C'est ça qui doit nous intéresser, c'est pas la forme. Est-ce qu'il y a des spots, ils dansent sur l'estrade, tout ça. Oh là là, c'est le monde dans l'église. Mais le diable, il nous amuse avec ça. C'est pas ça le problème. Dans une église où tout le monde est pieux, recueilli, etc., il y aura les mêmes problèmes. Et dans tout le monde occidental, il y a un problème. Et moi, je suis toujours impressionné de voir les reportages missionnaires et de voir les gens qui n'ont rien, cette consécration qu'ils peuvent donner à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je rends souvent ce témoignage. J'avais rencontré lors d'une de mes formations un chrétien qui vivait aux Nouvelles-Hébrides. Vous savez où c'est, les Nouvelles-Hébrides? Moi, je ne savais pas avant. Je ne sais toujours pas. Hein. Je sais à peu près où c'est maintenant. C'est en Océanie. Mais c'est... Il est arrivé avec moi, je me rappelle, je faisais mes stages à Montpellier, puis on est allé faire un tour en ville et on est rentré à la FNAC. Et quand il est rentré, il a vu le mur d'écran de télé. Il est resté comme ça, je ne le voyais plus bouger. Et je dis, ça va Daniel? Et il m'a dit, comment vous faites? Comment vous faites pour résister? Ça a été son premier mot. Et ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Lui, dans son pays, il vit à la terre, à la nature. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Bon, bien sûr, il y a des tentations aussi, hein, vous inquiétez pas. Mais nous, on a plus que ce qu'il faut. Hein. Et on se laisse séduire. On se laisse séduire. Et c'est des trous, des brèches dans la muraille. Quelques remarques sur ce début de prière de Néhémie. D'abord, vous avez remarqué, il demande une oreille attentive au Seigneur. Nous, quand on lui demande une oreille attentive, c'est parce qu'on a quelque chose à lui demander. Hein. Là, il demande une oreille attentive pour se repentir. Pour se repentir. La deuxième chose que je remarque, c'est qu'il ne dit pas « c'est les autres ». Le problème, c'est les autres. Il dit « nous avons péché ». Nous. Ça aussi, c'est une particularité de l'homme. Vous pouvez repartir de ce culte en disant « Ah là là, tous ces gens qui sont loin de Dieu dans l'église. » Vous savez que le diable, il est mal. Hein. Il va vous persuader que vous n'aviez pas besoin de cette prédication. Tout va bien. Tout va bien. Et puis le troisième point, c'est que Néhémie reconnaît que c'est justice. L'état de Jérusalem, c'est justice. puisque le peuple avait été averti de ce qui se passerait s'il ne tenait pas compte des commandements de Dieu. Parfois, des gens se plaignent de leurs épreuves, de leurs difficultés. Alors, ce n'est pas toujours le cas, attention, hein. Mais parfois, les gens se plaignent de leurs difficultés alors qu'ils y sont dedans parce qu'ils ont désobéi. Ils n'ont pas écouté le conseil de Dieu. Et le temps est venu pour eux de se repentir au lieu de se plaindre. De se repentir. Parce que se repentir, on va le voir, c'est tellement extraordinaire. Et ça ouvre des portes. Amen. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que Néhémie, face à tout cela, sa réaction, c'est pas de prendre des conseillers en coaching ou je ne sais pas quoi. Sa réaction, c'est de prier et de jeûner. Amen. Il est poussé par ses pleurs, mes frères et sœurs. Souvent, on me dit, mais quand est-ce qu'il faut jeûner, etc. J'ai dit, ne te pose pas la question. Quand ça va venir, tu vas jeûner. Pas besoin de dire, toi, tu dois jeûner. Le jeûne, il y en a qui l'ont pris comme, vous savez, une recette magique. Hein. Ah, si je jeûne, ah, Dieu, il va répondre à mes besoins. J'ai connu des gens, je suis obligé d'enseigner les gens. Ils me disent, pasteur, j'ai fait une semaine de jeûne et prière parce que la semaine prochaine, je passe un examen. Je lui dis, t'as pas besoin de jeûner et prier pour ça. Hein. Si tu as donné ta vie à Dieu, il s'occupe de ton examen. Jeûne et prie pour chercher la face de Dieu, pour savoir ce qu'il attend de toi, ça oui. Jeûne et prie quand à un moment donné, tu sais plus quoi faire, tu es au bout de tout et tu sais plus. Et Néhémie, quand il constate ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? Qu'il faut faire quoi là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Jérusalem ? Ben, il cherche Dieu. Il cherche Dieu dans le jeûne et la prière. Dans Néhémie chapitre 1 verset 4, il dit « Lorsque j'entendis ces choses, on l'a lu tout à l'heure, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation, plusieurs jours. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. » En fait, ce qui l'a poussé à se repentir, c'est qu'il connaissait la parole. Si vous voyez tout ce qu'il dit dans sa prière, vous faites le parallèle avec le livre du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, Moïse a redonné la loi au peuple d'Israël. Et à chaque fois, et à plusieurs reprises, et notamment, lisez le chapitre 30, il dit au peuple, « Si vous écoutez mes commandements, vous serez prospères dans ce pays et vous y vivrez longtemps. Si vous désobéissez à mes commandements, des nations viendront vous persécuter. Et si vous persévérez, vous serez chassés de cette terre que je vous ai donnée. » C'était ça, les commandements, les avertissements qui étaient donnés par Moïse. Et malheureusement, le peuple n'a pas tenu compte. Il s'est retrouvé, il est allé jusqu'au bout, puisqu'il s'est retrouvé dans la dernière option, celle de l'exil. Donc, Néhémie qui connaît la parole, il sait exactement ce qu'il faut faire. Ce qui le pousse à se repentir, c'est que Dieu a dit, Néhémie 1,9, « Si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Amen. Amen. Il y a de l'espoir pour celui qui se repent. J'aurais aimé plus de amen. Il y a de l'espoir pour celui qui se repent. Dieu n'est pas là ce matin pour nous mettre un gros coup de massue sur la tête. En disant, t'es un bon à rien, t'es un poum. Non, il veut nous réveiller. Il veut nous réveiller parce qu'il a des projets pour nous. Il veut avancer avec nous. Et pour l'instant, il en est empêché parce qu'il y a trop de brèches, trop de trous dans les murailles. Dieu met à exécution ses menaces, mais Dieu met aussi à exécution ses promesses. Amen. Si nous le délaissons, nous en subirons les conséquences. Mais si nous revenons à lui, il est puissant pour nous relever. Amen. Amen. Il y a de l'espoir pour l'Église si elle se repent de son attitude. Si chaque chrétien se repent de son attitude, à part ceux qui sont parfaits. Le dernier point, le troisième point, se mettre à l'œuvre au temps voulu par Dieu. C'est bien de prier, mais après la prière, il faut faire quelque chose. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Et il faut le faire quand Dieu décide que c'est le moment. C'est aussi notre difficulté, hein. Et je reprends l'image tout à l'heure, on prend le volant, hein. Mais laissons le volant à Dieu. Justement, c'est parce qu'on a pris le volant qu'il y a des trous et des brèches. Quand c'est Dieu qui a le volant, pas de trous, pas de brèches. Amen. Néhémie va prier, faire cette prière dans le chapitre 1 et le verset 11. « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Cet homme, c'est le roi. « J'étais alors échanson du roi. » Néhémie a cette chance. Mais en fait, ce n'est pas un hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Là où tu travailles, c'est Dieu qui t'y a placé. Hein. Même si tu râles toute la journée en disant « Nul ce travail, et les collègues, le patron. » Tu es là où Dieu veut que tu sois. Et là où tu es, il veut se servir de toi. Amen. Donne du succès à ton... Là aussi, c'est ouvre tes oreilles, c'est pas pour moi, pour ma pomme. Donne du succès à ton serviteur, c'est pour aller reconstruire Jérusalem, c'est pas pour avoir une promotion ou je ne sais pas quoi. Il va l'avoir, la promotion. Hein. Mais c'est pas ce qu'il recherche. C'est pas ce qu'il recherche. On a vu mardi soir qu'il était important de prier pour les autorités. Est-ce que vous priez pour les autorités ? Non, c'est pas mardi soir, c'est vendredi soir à la réunion à l'Ijourdain. C'est important de prier pour les autorités. Est-ce que vous le faites ? Ou est-ce que vous êtes de ceux qui râlent contre le gouvernement, le maire, ou je ne sais pas qui, alors que vous ne priez jamais pour eux ? Il faut prier pour eux. Que vous soyez d'accord avec eux ou pas, ce n'est pas la question. Vous devez prier pour eux. C'est un commandement qu'il y a dans les Écritures. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. 1 Timothée, chapitre 2. On doit prier pour les autorités. Faisons-le. Il a été inspiré de prier pour le roi, hein, Néhémie, quand on connaît la suite. Amen. Seigneur peut faire des choses qui vont nous étonner. On l'a vécu avec la construction du local. J'aurai l'occasion de vous en parler. On a vécu l'œuvre de Dieu dans le cœur des autorités de la ville. Amen. Priez pour votre patron. Le roi, c'était le patron de Néhémie. Est-ce que vous priez pour votre patron ? Là, vous êtes en train de penser, oh oui, il en a bien besoin. Non, 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 priez pour son salut. Priez pour qu'il découvre Dieu. C'est le seul moyen pour qu'il change. Hein. Et priez pour que vous soyez un témoin. Parce que même, l'apôtre Paul le dit, même devant un patron qui est mauvais, on doit avoir un bon témoignage. C'est la force du Saint-Esprit en nous. Hein. Attention. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire par nous-mêmes. Si vous essayez par vous-même, vous allez vite vous décourager. Ce n'est que 4 mois plus tard que Dieu va ouvrir une porte pour Néhémie. 4 mois passent. Quand on lit Néhémie, chapitre 2, verset 1 et le début du verset 2, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerces, jusqu'à maintenant je vous avais parlé du roi, hein, je ne disais pas le nom, hein, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage ? Le mois de Nisan, Ça correspond à mars et avril. Or, au début du livre de Néhémie, quand Néhémie reçoit Hanani et ses compagnons et qui font le constat de ce qui s'est passé à Jérusalem, on est au mois de Kisleu. Et le mois de Kisleu, ça correspond à novembre-décembre. Donc il s'est passé en gros 4 mois. 4 mois dans le jeûne, la prière. Donc il n'a pas jeûné tout le temps, mais il a eu des temps de jeûne et prière. Il a été dans la prière. Il s'attendait à Dieu. Il avait fait cette prière, tu vas disposer le cœur du roi. Et 4 mois. 4 mois, mais au bout de 4 mois, il y a une ouverture qui se crée. Il fallait une ouverture parce qu'un échanson, il ne pouvait pas... au fait, le roi, j'ai un truc à te demander. Non, il ne pouvait pas leur adresser la parole, c'est attention. Hein. Mais là, c'est le roi qui va lui dire, dis-moi ce que tu veux. Parce que quand il va lui expliquer pourquoi il est triste, il dit, dis-moi ce que tu veux. Et le Seigneur va ouvrir une porte extraordinaire. Quand le temps est favorable, l'ouverture de la porte est extraordinaire dans ses conséquences. Amen. Mais attendons le temps de Dieu. Souvent, on est déçu, on dit, mais Dieu, il n'a pas répondu. Parce qu'on a ouvert la porte trop tôt. Et on s'est ramassé parce qu'on a été trop vite. Moïse, qui veut sauver le peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu commencer quand lui voulait. Ben, il s'est ramassé. Ça lui a fait 40 ans de bonus. Sachant attendre le temps de Dieu, c'est difficile. Là aussi, on revient à l'image du volant. On laisse le volant à Dieu. Hein? Amen. Ce que Dieu fait lorsque nous venons à lui d'un cœur repentant dépasse ce que nous pouvons imaginer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe pour Néhémie? Non seulement le roi va lui donner audience pour qu'il puisse expliquer ce qu'il a sur le cœur, mais ça aurait pu s'arrêter là. Mais non, le roi va donner la possibilité à Néhémie d'aller à Jérusalem. Et pas juste ça, il lui donne des lettres de recommandation. Il va avoir le droit à des fournisseurs pour les matériaux, pour reconstruire, etc. Incroyable. Et vous savez ce qu'il fait en plus? Il le nomme gouverneur. Il le nomme gouverneur. Si ce n'est pas une promo, ça, les chansons du roi, il devient gouverneur. Ah, c'est pas mal. Mais c'est parce qu'il avait demandé dans sa prière. Mais c'est ce qui est arrivé. Quand on se repent, il arrive des choses extraordinaires. Alors ne vous repentez pas pour avoir une promotion, sinon le Seigneur, il le sait. Hein. On va être surpris de ce que Dieu fait. Je pense à la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue. Elle nous enseigne ce matin. Le fils prodigue était persuadé que tout allait bien. Il était même meilleur que les autres. C'est nul chez papa et maman. Je veux aller faire ma vie. Sauf qu'il s'est planté, lamentablement. Mais quand il s'est planté, il a su faire une chose, c'est se repentir. Il était tombé bien bas, hein, on est d'accord? Quand on envie la nourriture de cochon, c'est qu'on est tombé très bas. Et bien malgré qu'il soit tombé très très bas, la repentance, ça lui a permis de reconstruire. Amen. La repentance permet de reconstruire au-delà de ce qu'on peut espérer, puisque lui revient et dit à son père, « Oh, non, je ne suis plus ton fils. Après ce que j'ai fait, ne me considère pas comme ton fils. » Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il avait pris l'héritage de son père avant que son père meure, et il a dilapidé tout dans la débauche, tout ça. En fait, il a pris l'argent de son père et il l'a jeté à la poubelle, en gros. Donc, je ne vous dis pas, quand il retourne à la maison, normalement, le père... L'image du Père dans la parabole, c'est Dieu. Et Dieu l'accueille. Et lorsque le fils dit, je ne mérite pas de revenir comme fils, mais je veux être simplement un domestique, son père lui donne le vêtement du fils et lui met au doigt l'anneau du fils. Parce que même quand il était en train d'envier la nourriture des cochons, il était toujours son fils. Amen. Et il en va de même pour l'Église, mes frères et sœurs. Même si l'Église ne va pas bien, elle est toujours l'épouse de Christ. Et quand l'Église revient vers Christ, il ne dit pas « Non, non, tu n'es plus mon épouse. » Allez, puis. Non, non, il accueille. Et il travaille pour qu'elle soit pure, irrépréhensible, sans tache, c'est écrit. Amen. Il n'a pas fini avec nous. Il n'est pas découragé, le Seigneur. Il n'est pas découragé. Il attend simplement qu'on se repente et qu'on rebâtisse sur les fondements de la parole. Amen. Je conclue ce message. Ne soyons pas dans le déni. Prions. Prions, mes frères et sœurs. Et je pourrais rajouter jeûnons. Ça, c'est... Chacun est libre d'ajouter cela ou pas. Mais prier, c'est déjà beaucoup. Et mettons-nous à l'œuvre. Mettons-nous à l'œuvre pour rebâtir sur le roc. Et commençons par nos propres vies. Amen. Si chaque chrétien bâtit sur le roc, l'Église est bâtie sur le roc. Après, quand on va prendre des décisions, le conseil spirituel, ou quand certains d'entre vous vont nous apporter des propositions ou quoi, si nos vies sont fondées sur le roc, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place qui n'est pas bon ? Rien. Si nos vies sont fondées sur la parole, on va faire des choses conformes à la parole. Amen. La reconstruction de Jérusalem, elle s'est faite sur la muraille existante. On n'a pas rasé en disant « Ouah, tout ça !» Non, non. Sur la muraille existante, on a reconstruit. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut reconstruire. Cette église, elle n'est pas dans une ruine totale. Ce n'est pas mon idée ce matin. Je ne pense pas que c'est du Seigneur. Mais je pense que si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous avons proclamé une année de retour à la parole. Et pourtant, le Seigneur nous interpelle encore pour revenir à la parole. C'est donc c'est pas passé grand-chose. Hein. On a proclamé une année de la moisson. 4 baptêmes, 3 en vue. Et même s'il y en avait 10 de plus, est-ce que ça nous satisfait, mes frères et sœurs ? Je ne vous entends pas. Non, moi, ça ne me satisfait pas. Je ne suis pas dans la culpabilité en disant c'est ma faute, je ne sais pas quoi. Non, mais je me dis, Seigneur, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que quelque chose se passe. Nous, on veut voir des centaines de gens se tourner vers Dieu. Et surtout pas pour dire « Ah, l'église de Colombie, on a fait tant de baptêmes, on est là à cocher les cases, nous on en est à tant de baptêmes. » Non, et même à la limite, quand des gens, c'est arrivé, des gens se convertissent ici, ils vont prendre le baptême dans notre église, mais ça m'est égal. Vous comprenez ce que je veux dire ? Notre souci, c'est le salut des âmes. Et nous devons, devant l'état de notre monde, et là oui, on peut faire le parallèle aussi, le monde dans quel état il est. Alors lui, la muraille, elle n'est pas ébréchée, il n'y a plus de muraille, il n'y a plus rien. Toutes les valeurs, tout est tombé. Pourtant, on est dans une société judéo-chrétienne, de culture. Mais que reste-t-il de cette culture ? Rien. 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 Non seulement il reste rien, mais on est en train de faire l'inverse de ce que les fondements de cette culture nous disaient de faire. La reconstruction de Jérusalem, la reconstruction de l'Église est en route, mes frères et sœurs. Je veux le croire. Commençons chacun de notre côté, à nous tenir devant Dieu, nous repentir. Peut-être c'est pour ça que le Seigneur a permis que je change un peu. On va prendre la Sainte-Seine maintenant, on ne va pas faire le chant qui était prévu. On va simplement, à l'écoute de la parole qui a été donnée ce matin, mettre nos cœurs devant Dieu. Ce temps de Sainte-Seine, il est important, il est réservé, je rappelle, à ceux qui ont été baptisés adultes et qui marchent avec le Seigneur. Et ce temps, il est important d'abord. Jésus a dit c'est un devoir de mémoire, on doit se rappeler ce qui s'est passé à la croix, mais si je me rappelle ce qui s'est passé à la croix, que Jésus est mort pour mes péchés, est-ce que je peux supporter encore le péché dans ma vie ? Et le péché, c'est pas « Ah Seigneur, est-ce que j'ai volé ? Est-ce que j'ai menti cette semaine ? Est-ce que j'ai eu une pensée impure ?» C'est pas ça la question que vous devez vous poser. Le péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Donc la question que vous devez vous poser dans ce temps de Sainte-Seine, c'est « Seigneur, est-ce que je fais toujours ta volonté ?» Et vous connaissez la réponse. En tous les cas, moi je la connais, pour moi. Et donc, j'ai besoin de me demander pardon au Seigneur, de me repentir. Sincèrement. Amen. On va prendre ce repas. On va le faire d'une manière silencieuse. Je vous demande de ne pas élever vos voix. On va vraiment chacun se tenir devant Dieu. Et voilà, c'est personnel, c'est chacun de nous qui est engagé dans ce moment. Les frères et sœurs qui ont été désignés, approchez-vous et on va distribuer la Sainte Cène. On reste dans ce temps silencieux, on s'approche de Dieu. Et vraiment, dans votre cœur, si vous avez besoin de vous repentir, faites-le. Faites-le vraiment. Dieu connaît nos cœurs, hein. Il sait si on est sincère ou si on le fait juste pour faire plaisir au pasteur. Non, réellement, tenons-nous devant Dieu et faisons ce qu'il nous demande de faire, tout simplement. Amen. Te rendons grâce, te bénissons, Seigneur, pour ces moments que nous venons de vivre. Merci, Seigneur. Merci de nous parler avec autant d'amour, mais aussi autant de vérité. Seigneur, oui, que ferions-nous sans toi? Comme l'apôtre Pierre, je veux dire, Seigneur, tu es le seul, toi seul, à les paroles de la vie éternelle. Et sur ces paroles, Seigneur, que je veux fonder ma vie. Amen, Seigneur. Amen. Je veux vivre cette nouveauté de vie aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Merci Père, à toi la gloire. Amen. Amen, gloire à Dieu.